VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Nouakchott, 17h à Brazzaville. Bienvenue à notre journal. Au Cameroun, nouvel accident ferroviaire impliquant la compagnie Camrail. Un de ses trains affectés aux travaux de renouvellement de la voie ferrée a tué 3 passants hier soir à Yaoundé. Les détails avec Jacques Aristide.
Dans un communiqué, Camrail précise que le train de travaux de retour du chantier à l'entrée de la capitale camerounaise a percuté plusieurs personnes sur la voie ferrée. L'opérateur a fait état d'un corps retrouvé sur la voie et d'un autre récupéré par une famille avant l'arrivée des secours, alors qu'un blessé a rendu l'âme à l'hôpital où ont été admis également 2 autres blessés. Ce bilan est toutefois remis en question sur les réseaux sociaux, certains estimant qu'il est en deçà de la réalité. C'est donc une nouvelle polémique que provoque cette tragédie après le déraillement qui avait fait près de 80 morts en octobre dernier à Ezeka entre Yaoundé et Douala. La Fondation camerounaise des consommateurs se demande si une locomotive doit rouler dans la nuit sans phare ni klaxon. Un responsable de Camrail répond que le train klaxonne là où il y a un passage à niveau et qu'il n'en avait pas sur le lieu de l'accident. Tout en présentant ses sincères condoléances, la société ferroviaire rappelle que la circulation des personnes sur la voie ferrée est interdite.
Au Kenya, un député du centre du pays inculpé d'incitation à la violence pour avoir encouragé de récentes invasions de terre dans sa région. Incidents qui ont provoqué la mort de 8 personnes, dont un Britannique. Plus de détails avec Eddie Sango.
Mais Fulham Porkel, député pour la circonscription de Laikipia Nord, a été libéré après avoir été inculpé la veille et après avoir passé un jour en détention préventive, il a dû payer une caution de 2 000 $. Michel Porkel est mis en cause dans le meurtre dimanche d'un Britannique né en Afrique du Sud, tué dans son ranch alors qu'il inspectait les dégâts causés par les passages des éleveurs et leurs troupeaux. Le député est perçu comme l'un des hommes politiques jouant sur le peur des éleveurs pour encourager les invasions des terres à des fins électoralistes. Des milliers d'éleveurs, dont certains armés, des lances et d'autres d'armes automatiques, envahissent des ranches et des réserves privées de la région de Laikipia sur le contrefort de Mont Kenya à la recherche des pâtures pour leurs chèvres, vaches et moutons alors que le pays est touché par la sécheresse. Des photos de jeunes portant des t-shirts avec la mention « Team Limpurkel » envahissant en janvier les ranches Suyan où des logements pour touristes avaient été brûlés sont brandis comme preuve contre les députés. Au total, 8 personnes ont été tuées depuis décembre et 10 blessées dans ces incidents. La police a intensifié la lutte contre les éleveurs de Laikipia et 379 personnes ont déjà été arrêtées dans cette région.
Burundi, l'Université du Burundi passe des bourses généralisées à un système de prêt-bourse suite à un décret présidentiel signé le mois dernier. Les autorités burundaises expliquent que c'est pour responsabiliser les futurs cadres du pays. Mais bon nombre d'étudiants insistent pour que le président Pierre Nkurunziza abroge son décret, soulignant que de nombreuses familles n'ont pas les moyens de vivre dans la capitale Bujumbura où les prix des produits de première nécessité ne cessent de flamber. Reportage à Bujumbura de notre correspondant Christophe Nkurunziza.
Il est 10h à l'Université du Burundi, tout près de l'amphithéâtre de la faculté de droit. Des étudiants sont dans la pause traditionnelle. Interrogé, un professeur de droit pénal indique que la question du prêt-bourse va diviser les étudiants boursiers et non, et que l'on se dirige carrément vers la suppression de la bourse au Burundi. Dans leur pause, certains étudiants hésitent à s'exprimer, mais après maintes conciliabules, un groupe de 3 étudiants délégués estime que le décret présidentiel du 16 février 2017 doit être abrogé pour l'intérêt supérieur des étudiants aujourd'hui démunis.
On trouve que ce n'est pas le pré-bourse, c'est la suppression de la bourse en soi. Nous n'aimerons pas ce projet qu'on soit mis en application. Nous sommes dans la situation très mal.
Et nous constatons que c'est un système discriminatoire parce qu'un enfant de la famille pauvre bientôt va abandonner ses études. Il fallait que ce projet soit abrogé.
Ce n'est plus une bonne loi parce que compte tenu de la situation économique de nos chères familles, personne ne peut rembourser ces prêts-bourses. Nous demandons de veiller à abroger ce prêt-bourse.
Si le prêt-bourse est institutionnalisé dans bon nombre de pays occidentaux et américains, cet étudiant affirme que le Burundi ne va suivre le modèle des autres pays plus développés.
Si le Burundi veut imiter les autres pays, il faut d'abord vivre comme les autres pays. Mais au Burundi, nous sommes très en arrière. Alors comment on pourrait imiter les autres pays?
Ancien étudiant et cadre administratif à l'Université du Burundi, Emmanuel Bigirimana reconnaît que cette mesure sera dure à avaler pour les parents burundais, même si la mesure entre dans les nouvelles réformes instituées par les autorités burundaises.
En tant qu'ancien bénéficiaire de la bourse d'études, je comprends l'orientation politique, mais l'essentiel consiste à expliquer. En tant que parent, ça devient dur pour le parent qui aujourd'hui paie difficilement ses factures. Mais c'est un choix du gouvernement, un choix lié au contexte. Le parent se trouve dans une situation de plus en plus difficile.
La ministre Geneviève Ndirahish réussit en pari, là où d'autres ministres antérieurs avaient échoué. Cette question de prêt-bourse mettra beaucoup de temps pour son application effective dans un pays très pauvre, selon un professeur qui a requis l'anonymat. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Mali, début ce jeudi d'une grève illimitée du personnel de santé. L'arrêt de travail est organisé par le Syndicat national de la santé, de l'action et de la promotion de la famille et par la Fédération des syndicats de la santé et de l'action sociale. Les grévistes réclament entre autres des augmentations de salaire et de meilleures conditions de travail. Et puis au Nigeria, l'armée nationale compte ouvrir des enquêtes sur les accusations de violation des droits de l'homme portées contre ses troupes, notamment dans la lutte contre le groupe djihadiste Boko Haram. Le point avec Michel Joseph.
Le chef d'état-major de l'armée de terre nigériane, le général Tukur Buratai, qui a annoncé la nouvelle mercredi à Abuja, a expliqué qu'une équipe a été mise sur pied pour conduire ces enquêtes. Celle-ci comprend des officiers en retraite et en service, ainsi qu'un membre de la Commission nationale pour les droits de l'homme. L'équipe examinera les accusations d'exécution sommaire, de détention arbitraire, de torture et de disparition forcée de terroristes présumés de Boko Haram, mais son mandat n'inclut pas le massacre de musulmans chiites en décembre 2015, a tenu à préciser le général Buratai. Selon une enquête de la Commission nigériane pour les droits de l'homme, datant d'août dernier, 347 personnes ont été tuées dans ces incidents, mais aucune sanction n'a été prise à ce jour contre les militaires impliqués. Amnesty International et des groupes indépendantistes tels que les militants pro-Biafra du Sud ont accusé les militaires nigérians de violation des droits des civils dans leurs opérations. Des accusations jusqu'ici rejetées par les autorités militaires nigérianes.
En Tunisie, la compagnie nationale tunisienne annonce la reprise partielle et progressive de ses vols interrompus officiellement aujourd'hui pendant plusieurs heures en raison de vives tensions parmi ses employés. Une bagarre a éclaté ce matin entre personnel navigant et technique au départ d'un vol à destination de Paris. Des renforts policiers ont été envoyés à l'aéroport de Tunis-Carthage et une cellule de crise mise sur pied pour ramener le calme. D'après Tunisair, des discussions ont eu lieu avec les partis syndicales et des mesures transitoires fermes ont été prises dans l'attente des résultats de l'enquête administrative ouverte sur cette affaire. Selon la radio privée Mosaïque FM, le litige entre pilotes et techniciens porterait notamment sur des questions d'uniforme. Des mécaniciens avaient organisé récemment un sit-in pour dénoncer la façon dont ils sont traités par les pilotes. Tunisie toujours, le Premier ministre algérien Abdelmalek Sellal a assuré aujourd'hui à Tunis que le président de l'Algérie Abdelaziz Bouteflika, dont l'état de santé fait régulièrement l'objet de spéculations, allait très bien. Interrogé par un journaliste sur ce point lors d'une conférence de presse, M. Sellal a répliqué « Il vous passe le bonjour et il va très bien ». Actualité aux États-Unis maintenant, les interpellations d'immigrés clandestins à la frontière entre les États-Unis et le Mexique ont chuté de 40% en février par rapport à janvier. C'est ce qu'affirme le gouvernement américain en interprétant ce chiffre comme le premier effet tangible de la nouvelle politique migratoire du président Donald Trump. La baisse du nombre des interpellations montre un changement de tendance marqué, a souligné mercredi le ministre de la Sécurité intérieure, John Kelly. Ce dernier note que depuis la mise en application par l'administration Trump des décrets de l'exécutif destinés à renforcer les lois en matière d'immigration, les interpellations et les mouvements de personnes non admissibles dans le pays tendent vers un minimum mensuel au plus bas depuis 5 ans au moins. Or, selon le ministre Kelly, les interpellations d'immigrés clandestins par la police aux frontières américaines progressent d'habitude de 10 à 20% chaque année entre janvier et février, si l'on se réfère aux statistiques de son ministère. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.